Histoire de la Réformation du XVIe siècle, livre 8, chapitre 3. Amour de la guerre, Schinner, pension du pape, le labyrinthe, Zwingli en Italie, principe de réforme, Zwingli et Luther, Zwingli et Erasme, Zwingli et les anciens, Paris et Glaris. Zwingli s'appliqua aussitôt avec zèle au devoir que lui imposait sa vaste paroisse. Cependant, il n'avait que 22 ans et il se laissait souvent entraîner par la dissipation et par les idées relâchées de son siècle. Prêtre de Rome, il fut ce qu'étaient alors autour de lui les autres prêtres. Mais même en ces temps où la doctrine évangélique n'avait point encore changé son cœur, Zwingli ne donna jamais de ces scandales qui affligeaient souvent l'Église et éprouva toujours le besoin de soumettre ses passions à la règle sainte de l'Évangile. L'amour de la guerre enflammait alors les tranquilles vallées de Glaris. Il y avait là des familles de héros, les Tchudi, les Walla, les Ebli, dont le sang avait coulé sur les champs de bataille. Les vieux guerriers racontaient à une jeunesse avide de ces récits les guerres de Bourgogne et de Souabe, les combats de Saint-Jacques et de Ragaz. Mais ce n'était plus, hélas, contre les ennemis de leur liberté que ces bergers belliqueux prenaient les armes. On les voyait à la voix des rois de France, des empereurs, des ducs de Milan ou du Saint-Père lui-même descendre des Alpes comme une avalanche et se heurter avec un bruit de tonnerre contre les troupes rangées de la plaine. Un pauvre garçon nommé Mathieu Schinner, qui suivait l'école de Sion en Valais, c'était vers le milieu de la seconde moitié du XVe siècle, chantant un jour devant les maisons, comme le fit un peu plus tard le jeune Martin Luther, s'entendit appeler par un vieillard. Celui-ci, frappé de la liberté avec laquelle l'enfant répondait à ses questions, lui dit avec cet accent prophétique que l'homme, dit-on, trouve quelquefois près de la tombe. « Tu seras évêque et prince. » Cette parole saisit le jeune mendiant, et dès ce moment, une ambition démesurée s'empara de son cœur. À Zurich, à Corne, il fit des progrès qui étonnèrent ses maîtres. Il devint curé d'une petite paroisse du Valais, s'éleva rapidement et, envoyé plus tard à Rome pour demander au pape la confirmation d'un évêque de Sion qu'on venait d'élire, il obtint pour lui-même cet évêché et ceignit la mitre épiscopale. Cet homme ambitieux et rusé, souvent noble et généreux, ne regarda jamais une dignité que comme un degré destiné à le faire parvenir à une autre dignité plus élevée encore. Ayant fait offrir ses services à Louis XII, en en fixant le prix, « C'est trop pour un homme, » dit le roi. « Je lui montrerai, » répondit l'évêque de Sion irrité, « que je suis un homme qui en vaut plusieurs. » En effet, il se tourna vers le pape Jules II, qui l'accueillit avec joie, et Schinner parvint en 1510 à lier la Confédération suisse tout entière à la politique de cet ambitieux pontife. L'évêque, ayant reçu pour récompense le chapeau de cardinal, sourit en voyant qu'il ne restait plus qu'un degré entre lui et le trône des papes. Les regards de Schinner se promenaient sans cesse sur les cantons de la Suisse, et dès qu'il y découvrait quelque part un homme influent, il se hâtait de se l'attacher. Le pasteur de Glaris fixa son attention, et bientôt Zwingli apprit que le pape lui accordait une pension annuelle de 50 florins pour l'encourager dans la culture des lettres. Sa pauvreté ne lui permettait pas d'acheter des livres. Cet argent, pendant le peu de temps qu'Ulrich le reçut, fut entièrement consacré à l'acquisition d'ouvrages classiques ou théologiques qu'il faisait venir de Bâle. Zwingli se lia dès lors avec le cardinal et entra ainsi dans le parti romain. Schinner et Jules II laissèrent enfin percer le but de leurs intrigues. 8000 Suisses que l'éloquence du cardinal évêque avait rassemblés passèrent les Alpes, mais la disette, les armes et l'argent des Français les firent retourner sans gloire dans leurs montagnes. Ils y rapportèrent les suites accoutumées de ces guerres étrangères. La défiance, la licence, l'esprit de parti, les violences et les désordres de tout genre. Les citoyens refusaient d'obéir aux magistrats, les enfants à leurs pères. On négligeait l'agriculture et les soins des troupeaux, On voyait s'accroître à la fois le luxe et la mendicité. Les liens les plus sacrés se rompaient et la Confédération semblait près de se dissoudre. Alors se dessillèrent les yeux et s'alluma l'indignation du jeune curé de Glaris. Sa forte voix s'éleva pour signaler à son peuple l'abîme où il allait se perdre. Ce fut l'an 1510 qu'il publia son poème intitulé « Le labyrinthe ». Derrière les détours de ce jardin mystérieux, Minos a caché le Minotaure, ce monstre moitié homme, moitié taureau, qu'il nourrit de la chair des jeunes Athéniens. Le Minotaure, ce sont, dit Zwingli, les péchés, les vices, l'irréligion, le service étranger des Suisses qui dévorent les fils de son peuple. Un homme courageux, taisé, veut délivrer sa patrie, mais des obstacles nombreux l'arrêtent. D'abord un lion avec un œil, c'est l'Espagne et l'Aragon. Ensuite un aigle couronné dont le gosier s'entr'ouvre pour engloutir, c'est l'Empire. Puis un coq dont la crête se dresse et qui semble provoquer au combat, c'est la France. Le héros surmonte tous ces obstacles, parvient jusqu'au monstre, le frappe et sauve sa patrie. Ainsi, maintenant, s'écrit le poète, les hommes errent dans un labyrinthe, mais étant sans fil, ils ne peuvent regagner la lumière. On ne trouve plus nulle part l'imitation de Jésus-Christ. Un peu de gloire nous fait hasarder notre vie, tourmenter notre prochain, courir aux disputes, aux guerres et aux combats. On dirait que des furies se sont échappées des gouffres de l'enfer. Il fallait un Thésée, un réformateur. Zwingli le comprit et dès lors il pressentit sa mission. Il composa peu à peu une autre allégorie d'un sens encore plus clair. En avril 1512, les confédérés se levèrent de nouveau à la voix du cardinal pour la délivrance de l'Église. Glaris était au premier rang. La commune entière était censée en campagne, rangée autour de sa bannière avec son landamman et son pasteur. Zwingli dut marcher. L'armée passa les Alpes et le cardinal parut au milieu des confédérés avec les présents du pontife, un chapeau ducal orné de perles et d'or et surmonté du Saint-Esprit, représenté sous la forme d'une colombe. Les Suisses escaladaient les forteresses et les villes et passaient en présence des ennemis les rivières à la nage, sans vêtements et la hallebarde à la main. Les Français étaient partout mis en fuite. Les cloches et les trompettes retentissaient. Les populations accouraient de toutes parts. Les nobles faisaient apporter à l'armée du vin et des fruits en abondance. Les moines et les prêtres montaient sur des estrades et publiaient que les confédérés étaient le peuple de Dieu qui vengeait de ses ennemis l'épouse du Seigneur. Et le pape, prophète comme autrefois Caïphe, donnait aux confédérés le titre de défenseur de la liberté de l'Église. Ce séjour en Italie ne demeura pas sans effet sur Zwingli quant à sa vocation de réformateur. Ce fut au retour de cette campagne qu'il se mit à étudier le grec afin, dit-il, de pouvoir puiser dans les sources mêmes de la vérité la doctrine de Jésus-Christ. « J'ai résolu de m'appliquer tellement au grec, écrivait-il à Vadian le 23 février 1513, que personne ne pourra m'en détourner si ce n'est Dieu. Je le fais non pour la gloire, mais pour l'amour des saintes lettres. » Plus tard, un bon prêtre qui avait été son camarade d'école étant venu le voir, « Maître Ulrich, lui dit-il, on m'assure que vous donnez dans cette nouvelle erreur que vous êtes luthérien. »« Je ne suis pas luthérien, dit Zwingli, car j'ai su le grec, avant que d'avoir jamais entendu le nom de Luther. Savoir le grec, étudier l'Évangile dans la langue originale, telle était, selon Zwingli, la base de la réforme. Zwingli fit plus que de reconnaître de si bonne heure le grand principe du christianisme évangélique, l'autorité infaillible de la Sainte Écriture. Il comprit de plus comment on devait déterminer le sens de la parole divine. « Ils ont une idée bien peu élevée de l'Évangile, dit-il, ceux qui regardent comme frivole, vain et injuste, ce qu'ils pensent n'être pas d'accord avec leur raison. Il n'est pas permis aux hommes de plier comme il leur plaît l'Évangile à leur propre sens et à leur propre interprétation. » Zwingli leva les yeux au ciel, dit son meilleur ami, ne voulant avoir d'autre interprète que le Saint-Esprit lui-même. Tel fut, dès le commencement de sa carrière, l'homme qu'on ne craint pas de représenter comme ayant voulu soumettre la Bible à la raison humaine. La philosophie et la théologie, disait-il, ne cessaient de me susciter des objections. Alors j'en vins enfin à me dire, « Il faut laisser là toutes ces choses et chercher la pensée de Dieu uniquement dans sa propre parole. Je me mis, continue-t-il, à supplier instamment le Seigneur de m'accorder sa lumière. Et bien que je ne lusse que l'Écriture, elle devint pour moi beaucoup plus claire que si j'eusse lu bien des commentateurs. Il comparait les Écritures avec elles-mêmes, il expliquait les passages obscurs par les passages plus clairs. Bientôt, il connut à fond la Bible et surtout le Nouveau Testament. Quand Zwingli se tourna vers la Sainte Écriture, la Suisse fit le premier pas vers la Réformation. Aussi, quand il exposait les Écritures, chacun sentait que ses enseignements venaient de Dieu et non d'un homme. « Œuvre toute divine !» s'écrit ici Oswald Mykonius. C'est ainsi que nous fut rendue la connaissance de la céleste vérité. Zwingli ne dénigna pas cependant les explications des docteurs les plus célèbres. Il étudie plus tard Origène, Ambroise, Jérôme, Augustin, Chrysostome, mais non comme des autorités. « J'étudie les docteurs, dit-il, dans le même but dans lequel on demande à un ami « Comment comprenez-vous ceci ?» L'Écriture sainte était selon lui la pierre de touche avec laquelle il allait éprouver les plus saints des docteurs eux-mêmes. La marche de Zwingli fut lente, mais progressive. Il ne vint pas à la vérité comme Luther, par ces tempêtes qui obligent l'âme à chercher en toute hâte un refuge. Il y arriva par l'influence paisible de l'Écriture, dont la puissance grandit peu à peu dans les cœurs. Luther parvint au rivage désiré à travers les orages de la vaste mer. Zwingli, en se laissant glisser le long du fleuve. Ce sont les deux principales voies par lesquelles Dieu conduit les hommes. Zwingli ne fut converti pleinement à Dieu et à son évangile que dans les premiers temps de son séjour à Zurich. Cependant, le moment où en 1514 ou en 1515, cet homme fort fléchit le genou devant Dieu pour lui demander de comprendre sa parole, fut celui où commencèrent les premières lueurs du beau jour qu'il éclaira plus tard. Ce fut à cette époque qu'une poésie d'Érasme, dans laquelle il introduisait Jésus-Christ s'adressant à l'homme qui périt par sa propre faute, fit sur Zwingli une impression puissante. Seul dans son cabinet, il répétait ce morceau où Jésus se plaignait de ce qu'on ne cherchait pas toute grâce auprès de lui, bien qu'il fût la source de tout ce qui est bon. « Tout, » dit Zwingli, « tout. » Et ce mot est sans cesse présent à son esprit. Y a-t-il donc des créatures, des saints, auxquels nous devions demander quelque secours ? Non, Christ est notre seul trésor. Zwingli ne se bornait pas à lire des écrits chrétiens. L'un des traits qui caractérise les réformateurs du XVIe siècle, c'est l'étude approfondie des auteurs grecs et romains. Les poésies d'Hésiode, d'Homère, de Pindare ravissaient Zwingli et il nous a laissé des commentaires ou des caractéristiques de ces deux derniers poètes. Il lui semblait que Pindare parlait de ses dieux d'une manière si sublime qu'il devait y avoir eu en lui un pressentiment du vrai Dieu. Il étudia à fond Cicéron et Démosthène, qui lui apprenaient et les arts de l'orateur et les devoirs du citoyen. Il appelait Sénèque un saint homme. L'enfant des montagnes de la Suisse aimait aussi à s'initier aux mystères de la nature dans les écrits de Pline. Thuclide, Salluste, Tite-Live, César, Suétone, Plutarque, Tacite lui apprenaient à connaître le monde. On lui a reproché son enthousiasme pour les grands hommes de l'Antiquité, et il est vrai que quelques-unes de ses paroles sur ce sujet ne sauraient être justifiées. Mais s'il les honora si fort, c'est qu'il croyait voir en eux non des vertus humaines, mais l'influence de l'Esprit-Saint. L'action de Dieu, loin de se renfermer aux temps anciens, dans les limites de la Palestine, s'étendait, selon lui, au monde universel. « Platon, disait-il, a aussi bu à la source divine. Et si les deux Catons, si Camille, si Scipion n'avaient pas été vraiment religieux, aurait-il été si magnanime ?» Zwingli répandait autour de lui l'amour des lettres. Plusieurs jeunes gens d'élite se formaient à son école. « Vous m'avez offert non seulement des livres, mais encore vous-même, lui écrivait Valentin Tchoudi, fils de l'un des héros des guerres de Bourgogne. Et ce jeune homme, qui alors avait déjà étudié à Vienne et à Bâle sous les plus célèbres docteurs, ajoutait « Je n'ai trouvé personne qui explique les auteurs classiques avec autant de justesse et de profondeur que vous. » Tchoudi se rendit à Paris. Il put comparer l'esprit qui régnait dans cette université avec celui qu'il avait trouvé dans l'étroite vallée des Alpes que dominent les sommités gigantesques et les neiges éternelles du Dodi, du Glarnich, du Vigis et du Freiberg. « Dans quelle niaiserie on élève la jeunesse française » dit-il. « Nul venin n'égale l'art sophistique qu'on lui enseigne. Cet art émousse les sens, ôte le jugement, rend semblable à la bête. L'homme n'est plus alors, comme l'écho, qu'un vain son. 10 femmes ne sauraient tenir tête à un seul de ses rhéteurs. Dans leur prière même, j'en suis sûr, ils présentent à Dieu leur sophisme et prétendent par leur syllogisme contraire à l'Esprit Saint à les exaucer. » Tels étaient alors Paris et Glaris, la métropole intellectuelle de la chrétienté et un bourg de pâtre des Alpes, une lueur de la parole de Dieu, éclaire davantage que toute la sagesse humaine. Livre 8, chapitre 4, Zwingli vers Erasme, Oswald Mikonius, Les Brigands, Écho Lampade, Zwingli à Marignan, Zwingli et l'Italie, Méthode de Zwingli, Commencement de la Réforme, Découverte, Passage d'un monde à l'autre. Un grand homme de ce siècle, Erasme, eut beaucoup d'influence sur Zwingli. Il ne paraissait pas un de ses écrits sans que Zwingli ne se le procurât aussitôt. En 1514, Erasme était arrivé à Bâle, où l'évêque l'avait reçu, avec les marques d'une haute estime. Tous les amis des lettres s'étaient aussitôt regroupés autour de lui, mais le roi des écoles avait facilement discerné celui qui devait être la gloire de la Suisse. « Je félicite la nation helvétique, écrivit-il à Zwingli, de ce que vous travaillez par vos études et par vos mœurs, également excellente, à la polir et à l'ennoblir. » Zwingli brûlait du désir de le voir. « Des Espagnols et des Gaulois ont bien été à Rome pour voir Tite-Live, disait-il. Il part, il arrive à Bâle, il y trouve un homme d'environ 40 ans, d'une petite taille, d'un corps frêle, d'une apparence délicate, mais plein d'amabilité et de grâce. C'était Erasme. L'agrément de sa personne dissipe la timidité de Zwingli. La puissance de son esprit le subjugue. « Pauvre, lui dit Ulrich, comme Eschine, lorsque chacun des disciples de Socrate offrait un présent à son maître, je te donne ce qu'Eschine donna, je me donne moi-même. » Parmi les hommes de lettres qui formaient la cour d'Erasme, les Amerbach, les Rénan, les Frobenius, les Nessène, les Glaréans, Zwingli remarqua un jeune lucernois de 27 ans, nommé Oswald Gesch-Uller. Erasme, hellénisant son nom, l'avait appelé Mikonius. Nous le désignerons souvent par son prénom pour distinguer l'ami de Zwingli de Frédéric Mikonius, le disciple de Luther. Oswald, après avoir étudié à Rottweil avec un jeune homme de son âge, nommé Berthold Haller, puis à Berne, puis à Bâle, était devenu dans cette dernière ville recteur de l'école de Saint-Théodore et ensuite de celle de Saint-Pierre. L'humble maître d'école n'avait qu'un bien petit revenu. Cependant, il s'était marié à une jeune fille d'une simplicité et d'une pureté d'âme qui gagnait tous les cœurs. Nous avons déjà vu que c'était alors en Suisse un temps de trouble, où les guerres étrangères suscitaient de violents désordres et où les soldats, en revenant dans leur patrie, y rapportaient la licence et la brutalité. Un jour d'hiver, sombre et nébuleux, quelques-uns de ces hommes grossiers attaquèrent, en l'absence d'Oswald, sa tranquille demeure. Ils frappent à la porte, jettent des pierres, appellent avec des expressions déshonnêtes sa modeste épouse. Enfin, ils enfoncent les fenêtres et, ayant pénétré dans l'école et brisé ce qui s'y trouvait, ils se retirent. Peu après, Oswald arrive. Son fils, le petit Félix, court à sa rencontre en poussant des cris et sa femme, ne pouvant parler, donne les signes du plus grand effroi. Il comprend ce qui est arrivé. Au même moment, un bruit se fait entendre dans la rue. Hors de lui, le maître d'école saisit une arme et poursuit les mutins jusqu'au cimetière. Il s'y retire, prêt à se défendre. Trois d'entre eux se jettent sur Myconius, le blessent, et tandis qu'on panse sa plaie, ces misérables envahissent de nouveau sa maison en poussant des cris furieux. Oswald n'en dit pas davantage. Voilà ce qui se passait dans les villes de la Suisse au commencement du XVIe siècle et avant que la Réformation eût adouci et discipliné les mœurs. La droiture d'Oswald Myconius, sa soif de science et de vertu, le rapprochèrent de Zwingli. Le recteur de l'école de Bâle reconnut tout ce qu'il y avait de grand dans le curé de Glaris. Plein d'humilité, il se dérobait lui-même aux éloges que lui donnaient Zwingli et Erasme. « Vous, maître d'école, disait souvent ce dernier, je vous estime à l'égal des rois. » Mais le modeste Myconius ne pensait pas de même. « Je ne fais que ramper terre à terre, disait-il. Il y a eu en moi, dès l'enfance, je ne sais quoi d'humble et de petit. » Un prédicateur arrivé à Bâle, à peu près en même temps que Zwingli, attirait alors l'attention. D'un caractère doux et pacifique, il aimait une vie tranquille, lent et circonspect dans les affaires. Il se plaisait surtout à travailler dans son cabinet et à faire régner la concorde parmi les chrétiens. Il se nommait Jean Haushain, en grec « écholampade », c'est-à-dire « lumière de la maison ». Il était né en Franconie, de parents riches, un an avant Zwingli. Sa pieuse mère désirait consacrer aux lettres et à Dieu même le seul enfant que Dieu lui eût laissé. Le père le voua d'abord au commerce, puis à la jurisprudence. Mais comme écholampade était de retour de Bologne, où il avait étudié le droit, le Seigneur, qui voulait faire de lui une lampe dans l'Église, l'appela à l'étude de la théologie. Il prêchait dans sa ville natale quand Capiton, qu'il avait connu à Heidelberg, le fit nommer prédicateur à Bâle. Il y annonça Christ avec une éloquence qui remplit d'admiration ses auditeurs. Erasme l'admit dans son intimité. Écholampade était ravi des heures qu'il passait dans la société de ce grand génie. « Il n'y a qu'une chose, lui disait le prince des lettres, qu'il faille chercher dans les saintes écritures, c'est Jésus-Christ. » Il donna au jeune prédicateur, en souvenir de son amitié, le commencement de l'évangile selon saint Jean. Écholampade baisait souvent ce gage d'une si précieuse affection et le tenait suspendu à son crucifix, afin, disait-il, de me souvenir toujours d'Erasme dans mes prières. Zwingli revint dans ses montagnes, l'esprit et le cœur remplis de tout ce qu'il avait vu et entendu à Bâle. « Je ne saurais goûter le sommeil, écrivait-il à Erasme peu après son retour, si je ne me suis entretenu quelque temps avec vous. Il n'y a rien dont je me glorifie comme d'avoir vu Erasme. » Zwingli avait reçu une impulsion nouvelle. De tels voyages exercent souvent une grande influence sur la carrière du chrétien. Les disciples de Zwingli, Valentin, Jost, Louis-Pierre et Egidius Tschudi, ses amis, le landamant Ebli, le curé Binsley de Wessen, Fridolin Brunner et le célèbre professeur Glaréan, le voyaient avec admiration grandir en sagesse et en connaissance. Les vieillards honoraient en lui un courageux serviteur de la patrie, les pasteurs fidèles, un zélé ministre du Seigneur. Rien ne se faisait dans le pays sans qu'on eût pris son avis. Tous les gens de bien espéraient que l'antique vertu des Suisses serait un jour rétablie par lui. François Ier, étant monté sur le trône et voulant venger en Italie l'honneur du nom français, le pape, effrayé, chercha à gagner les cantons. Ulrich revit ainsi en 1515 les champs de l'Italie au milieu des phalanges de ses concitoyens. Mais la division que les intrigues des Français portèrent dans l'armée confédérée brisa son cœur. On le voyait souvent au milieu des camps, harangué avec énergie et en même temps avec une grande sagesse, ses auditeurs armés de pied en cap et prêts au combat. Le 8 septembre, 5 jours avant la bataille de Marignan, il prêcha sur la place publique de Monza, où les soldats suisses, demeurés fidèles à leur drapeau, étaient rassemblés. Si l'on avait alors et plus tard suivi les conseils de Zwingli, dit Werner Steiner de Zug, que de mots auraient été épargnés à notre patrie. Mais les oreilles étaient fermées aux paroles de concorde, de prudence et de soumission. La véhémente éloquence du cardinal Schinner électrisait les confédérés et les faisait fondre avec impétuosité sur les champs funestes de Marignan. La fleur de la jeunesse helvétique y succombait. Zwingli, qui n'avait pu empêcher tant de désastres, se précipitait lui-même pour la cause de Rome au sein des dangers. Sa main saisissait l'épée. Triste erreur de Zwingli, ministre de Christ, il oublia plus d'une fois qu'il ne devait combattre qu'avec les armes de l'esprit et il dut voir s'accomplir en sa personne d'une manière frappante cette prophétie du Seigneur, « Celui qui prend l'épée périra par l'épée ». Zwingli et ses Suisses n'avaient pu sauver Rome. L'ambassadeur de Venise a pris le premier, dans la ville des pontifes, la défaite de Marignan. Tout joyeux, il se rendit de grand matin au Vatican. Le pape sortit à demi vêtu de ses appartements pour lui donner audience. Léon X, en apprenant cette nouvelle, ne cacha point sa terreur. Dans ce moment d'une grande épouvante, il ne vit que François Ier et il n'espéra qu'en lui. « Seigneur ambassadeur, dit-il en tremblant à Sorzy, il faut nous jeter dans les bras du roi et crier miséricorde. » Luther et Zwingli, dans leur danger, connaissaient un autre bras et invoquaient une autre miséricorde. Ce second séjour en Italie ne fut pas inutile à Zwingli. Il remarqua les différences qui se trouvent entre le rituel ambrosien en usage à Milan et celui de Rome. Il rassembla et compara entre eux les plus anciens canons de la messe. Ainsi, l'esprit d'examen se développait en lui, même au milieu du tumulte des camps. En même temps, la vue des enfants de sa patrie menés au-delà des Alpes et livrés à la boucherie comme leur bétail le remplit d'indignation. La chair des confédérés, disait-on, est à plus bas prix que celle de leurs bœufs et de leurs veaux. La déloyauté et l'ambition du pape, l'avarice et l'ignorance des prêtres, la licence et la dissipation des moines, l'orgueil et le luxe des prélats, la corruption et la vénalité qui de toutes parts gagnaient les Suisses, tous ces maux, frappant plus que jamais ses regards, lui firent sentir plus vivement encore la nécessité d'une réforme dans l'Église. Zwingli prêcha dès lors plus clairement la parole de Dieu. Il expliquait les fragments des évangiles et des épîtres choisis pour le culte en comparant toujours l'Écriture avec l'Écriture. Il parlait avec animation et puissance et suivait avec ses auditeurs la même marche que Dieu suivait avec lui. Il ne proclamait pas comme Luther les plaies de l'Église, mais à mesure que l'étude de la Bible lui manifestait quelque enseignement utile, il le communiquait à ses ouailles. Il cherchait à leur faire recevoir la vérité dans le cœur, et puis il se reposait sur elle de l'œuvre qu'elle devait y faire. « Si l'on comprend ce qui est vrai, pensait-il, on discernera ce qui est faux. Cette maxime est bonne pour les commencements d'une réformation. » Mais il vient un temps où, d'une voix courageuse, il faut signaler l'erreur. C'est ce que Zwingli savait fort bien. Le printemps, disait-il, est la saison pour semer. C'était alors pour lui le printemps. Zwingli a indiqué ce temps, 1516, comme le commencement de la réforme suisse. En effet, si 4 ans auparavant, il avait incliné la tête sur le livre de Dieu, il la releva alors et se tourna vers son peuple pour lui faire part de la lumière qu'il y avait trouvée. C'est une époque nouvelle et importante dans l'histoire du développement de la révolution religieuse de ces contrées. Mais c'est à tort qu'on a conclu de ces dates que la réforme de Zwingli a précédé celle de Luther. Peut-être Zwingli prêcha-t-il l'évangile 1 an avant les thèses de Luther, mais Luther le prêcha lui-même 4 ans avant ses fameuses propositions. Si Luther et Zwingli s'en fussent tenus à des simples prédications, la réformation n'eût pas envahi si promptement l'Église. Luther et Zwingli n'étaient ni le premier moine, ni le premier prêtre qui prêchasse une doctrine plus pure que celle des scolastiques. Mais Luther fut le premier à élever publiquement et avec un courage indomptable l'étendard de la vérité contre l'empire de l'erreur, à appeler l'attention générale sur la doctrine fondamentale de l'Évangile, le salut par la grâce, à introduire son siècle dans cette carrière nouvelle de science, de foi et de vie, de laquelle un nouveau monde est sorti. En un mot, à commencer une salutaire et une véritable révolution. La grande lutte dont les thèses de 1517 furent le signal enfonta vraiment la réforme dans le monde et lui donna tout à la fois une âme et un corps. Luther fut le premier réformateur. Un esprit d'examen commençait à souffler sur les montagnes de la Suisse. Un jour, le curé de Glaris, se trouvant dans la riante contrée de Molise chez Adam, curé du lieu, avec Bunsley, curé de Wessen, et Varchon, curé de Kerensen, ses amis découvrirent une vieille liturgie où ils lurent ces mots. Qu'après avoir baptisé l'enfant, on lui donne le sacrement de l'Eucharistie et la coupe du sang. Donc, dit Zwingli, la scène était alors donnée dans nos églises sous les deux espèces. Cette liturgie avait environ 200 ans. C'était une grande découverte pour ces prêtres des Alpes. La défaite de Marignan portait ses fruits dans l'intérieur des cantons. François Ier, vainqueur, prodiguait l'or et les flatteries pour gagner les confédérés. Et l'empereur les sollicitait par leur honneur, par les larmes des veuves et des orphelins et par le sang de leurs frères de ne pas se vendre à leurs meurtriers. Le parti français eut le dessus d'Anglaris. Et dès lors, ce séjour devint à charge à Ulrich. Zwingli à Glaris fut peut-être resté un homme du siècle. Les intrigues des partis, les préoccupations politiques, l'Empire, la France, le duc de Milan eussent presque absorbé sa vie. Dieu ne laisse jamais au milieu du tumulte du monde ceux qu'il veut préparer pour les peuples. Il les mène à part, il les place dans une retraite où ils se trouvent vis-à-vis de Dieu et d'eux-mêmes et recueillent d'inépuisables leçons. Le Fils de Dieu même, type en cela des voies qu'il impose à ses serviteurs, passa 40 jours dans le désert. Il était temps d'enlever Zwingli à ce mouvement politique qui, en se répétant sans cesse dans son âme, y eût éteint l'Esprit de Dieu. Il était temps de le former pour une autre scène que celle où s'agitent les hommes des cours, des cabinets et des partis, et où il eût dépensé inutilement des forces dignes d'un emploi plus élevé. Son peuple avait bien besoin d'autre chose. Il fallait qu'une nouvelle vie descendît maintenant des cieux et que l'organe qui devait la communiquer désapprît les choses du siècle pour apprendre celles d'en haut. Ce sont là deux sphères entièrement distinctes. Un grand espace sépare ces deux mondes. Et avant que de passer entièrement de l'un à l'autre, Zwingli devait séjourner quelque temps dans un espace neutre, sur un terrain intermédiaire et préparatoire pour y être enseigné de Dieu. Dieu le prit alors au milieu des parties de Glaris et le conduisit pour ce noviciat dans la solitude d'un ermitage. Il renferma dans les murs étroits d'une abbaye ce germe généreux de la Réformation qui bientôt, transplanté dans un sol meilleur, devait couvrir les montagnes de son ombre.